qu'elle porte la propriété ou le prélèvement rentier tendent en général à ne pas augmenter avec le niveau plus élevé de la rente. Ce qui est vrai, en revanche, est plutôt le contraire. Autrement dit, la rente est liée à une rareté naturelle, mais le plus souvent artificielle d'une ressource, c'est-à-dire une logique de raréfaction de cette ressource, comme dans le cas d'une position de monopole. De cette manière, la rente existe parce qu'elle peut s'appuyer sur des formes de propriété ou sur des créances qui permettent de créer une rareté et d'imposer des prix plus élevés que ceux justifiés par leur coût de production ou de reproduction. Et cela grâce notamment à des artefacts politiques et institutionnels, comme le montre aujourd'hui la logique à la base du renforcement des droits de propriété intellectuelle. Enfin, le troisième élément qui permet de caractériser la rente est le suivant. La rente capitaliste, contrairement à la rente féodale, peut être caractérisée comme un rapport pur de distribution, étant donné, et là je vais citer Marx, qu'elle n'accomplit aucune fonction, ou du moins aucune fonction normale, dans les procès de production. Insomma, la rente se présente pour l'essentiel comme une créance, comme un droit de propriété sur des ressources matérielles et immatérielles qui donnent droit à un prélèvement sur la production à partir d'une position d'extériorité par rapport à la production elle-même. Cela étant dit, passons maintenant au profit et aux critères qui permettent de les distinguer de la rente. Des critères qui sont, comme on va le voir, beaucoup moins évidents que ce que l'on peut penser habituellement. Dans ce but, pour mieux comprendre ces raisonnements, il est utile de repartir à la suite des classiques de l'exemple de la rente foncière, qui, comme vous le savez, est la rémunération du propriétaire terrien pour l'utilisation des terres dont il est le propriétaire. En ce sens, selon une définition très classique que vous retrouvez par exemple dans les dictionnaires économiques de Guérin, la rente peut être définie comme ce qui reste après qu'ont été rémunérés tous ceux qui ont contribué à la production. Notons alors qu'à partir de cette définition, tout dépend de la manière dont on définit contribution à la production et qui contribue à la production. Ainsi, si l'on accepte la définition classique et encore valable à mon sens du profit, le profit est la rémunération du capital et consiste à obtenir un revenu proportionnel à la masse des capitaux avancés ou immobilisés dans la production. En tant que tel, le profit n'a donc rien à voir avec une rétribution des fonctions de coordination et de surveillance de la production effectuée éventuellement par l'entrepreneur ou les dirigeants d'entreprise, conçu comme un fonctionnaire du capital. Sur cette base, on pourrait alors estimer que la rémunération du capital est aussi un rente, au même titre que la rémunération de la terre, puisque le propriétaire du capital peut très bien se contenter de fournir les capitaux, les moyens de production, sans les mettre en œuvre lui-même, sans jouer aucun rôle dans la production. C'est pourquoi l'histoire du capitalisme et de la pensée économique est traversée depuis le début par une énorme bagarre théorique qui vise à bien établir les frontières en rente et profit. Sans m'attarder sur ces débats, je dirais que les deux arguments les plus sérieux pour établir ces distinctions ont été les suivants. Le premier argument concerne le caractère interne du capital au procès de production, conçu comme une condition nécessaire de la direction de l'organisation du travail. Cette antériorité repose soit sur la corrispondance de la figure du capitaliste et de la figure de l'entrepreneur, soit sur une logique managériale privilégiant l'expansion des capacités productives tout en jouant un rôle clé dans l'organisation de la production. Dans les deux cas, cette antériorité suppose donc, antériorité dans le sens précédent, suppose donc une opposition nette entre le travail de conception, qui est un attribut du capital, et le travail d'esécution routinière, qui lui è un attribut du travail. Cependant, come on le verra, la realizzazione di queste due condizioni della distinzione, voire dell'opposition rente profit, n'a été que le produit transitoire d'une phase du capitalisme. Plus précisément, ces conditions ne se réalisent pleinement qu'à l'âge d'or de la croissance fordiste, dans laquelle aussi bien la logique de la soumission réelle du travail au capital que celle de la production de masse, comme lutte contre la rareté, trouvent leur aboutissement. Ces frontières vont en revanche de plus en plus se brouiller dans le capitalisme cognitif. Mais avant d'aborder cette analyse, il me semble utile de faire encore un petit détour à travers Marx, lorsque dans le livre 3 du Capital, Marx évoque une sorte de théorie du capital ou du profit rente. À ce propos, rappelons que Marx, dans plusieurs écrits, semble au départ partager ces deux critères de distinction que je viens d'évoquer entre rente et profit. Et cela pour deux raisons principales. La première raison est que Marx, comme les auteurs classiques, dans l'analyse du capital en général, c'est-à-dire dans le livre 1 et le livre 2 notamment, semble supposer qu'en général, les capitalistes industriels possèdent ces moyens de production et interviennent directement dans l'organisation de la production, ce qui était par ailleurs le cas le plus général à l'époque du capital. En ce sens, les capitalistes industriels peuvent donc apparaître comme une figure opposée à celle du rentier, dans la mesure où, dans les laboratoires secrets de la production, comme dirait Marx, il est directement inséré dans un rapport de production et investi pour augmenter les forces productives et donc diminuer la rareté du capital. La deuxième raison, peut-être la plus importante, est que Marx raisonne dans le cadre de la tendance à la soumission réelle, tendance dans laquelle, pour utiliser les termes de Marx, les fonctions purement despotiques et les fonctions objective d'organisation capitaliste de la production semble se confondre. Et c'est là, dans la mesure même, où l'incorporation de la science au capital fixe et la séparation du travail de conception et d'exécution semble donner au commandement capitaliste sur la production un fondement matériel, inscrit dans les rapports dans la matérialité même des rapports de production. C'est ainsi que Marx affirme que les capitalistes et les travailleurs salariés sont les deux seuls agents de la production, alors que la rente, dans le passage de la féodalité au capitalisme, est devenue un pur rapport de distribution. Cependant, Marx, dans le livre 3, en développant l'analyse du capital porteur d'intérêt et du profit d'entrepreneur, remet en partie en cause le terme de cette opposition rente-profit, et par un passage alla limite, envisage le devenir rentier du profit et della proprietà du capital eux-mêmes. Pour ce faire, il introduit deux hypothèses complémentaires. La première hypothèse concerne la manière dont le développement des crédits et les tendances au développement des sociétés par action allaient conduire à une séparation de plus en plus importante de la propriété et de la gestion du capital. De cette façon, selon Marx, la propriété du capital, et il utilise vraiment ce terme, allait suivre un destin semblable à celui de la rente frontière dans le passage de la féodalité au capitalisme. C'est-à-dire que la propriété du capital s'extériorise par rapport à la fonction d'organisation de la production, et comme la propriété foncière, la propriété du capital prélève la plus-value sans exercer plus directement aucune fonction dans la mise en œuvre de la production. Marx oppose ainsi le caractère passif du capital propriété au caractère actif du capitaliste producteur, du capitaliste fonction, qui est la suite de la scission de la propriété et de la gestion, prend de plus en plus la forme, fausse, dit Marx, d'un salaire versé à des gestionnaires pour l'exercice des fonctions, des tâches, des coordinations et d'organisation de la production. Nous avons là, chez Marx, une analyse qui, sur bien des aspects, anticipe celle qui, durant les années 30, sera développée par Keynes. Je fais référence au passage où Keynes oppose la figure de l'entrepreneur à celle du spéculateur et en tirant l'expansion, les leçons de l'expansion de la rente et de l'instabilité des marchés financiers, élargit les concepts des rentes à la propriété du capital lui-même, elle-même. Sur cette base, et là je cite Keynes, il préconisera par ailleurs explicitement l'euthanasie du rentier et par suite la disparition de ce qu'il appelle le pouvoir oppressif additionnel qu'a les capitalistes d'exploiter la valeur conférée au capital par sa rareté. En fait, préciserà en plus Keynes, l'intérêt ne rémunère aujourd'hui aucun sacrifice véritable, pas plus que la rente du sol. Mais dans le livre 3 du Capital, Marx allait plus loin que Keynes, en évoquant une situation où le caractère rentier du capital se trouve associé au capital productif lui-même, voire à l'ensemble des fonctions du capital. La deuxième hypothèse, développée par Marx, concerne en fait une évolution du rapport capital-travail dans laquelle l'extériorité de la propriété du capital par rapport à la production va de pair avec une crise de la soumission réelle. Une crise de la soumission réelle liée à un processus ouvrier de réappropriation des savoirs. Dans ce cadre, pour reprendre alors les termes qu'utilise à peu près Marx, les fonctions de coordination de la production du manager, du fonctionnaire du capital, deviennent elles aussi superflues et apparaissent comme étant purement despotiques face à une coopération du travail qui peut s'organiser de manière autonome. Notons pour conclure ces lectures par Marx que ces théories du capital ou du profit rente, à peine ébauchées dans les livres 3, acquiert encore plus de force et de pertinence historique dès lors que nous la combinons avec l'hypothèse du général intellect et avec l'hypothèse d'une crise de la loi de la valeur fondée sur le temps de travail. Mais Marx ne va pas effectuer lui-même cette articulation, ces rapprochements, car à son époque, ces hypothèses n'avaient que le statut d'une potentialité à venir, une tendance située dans la longue période. Et à juste titre, en fait, après sa mort, après la mort de Marx, malgré les turbulences et l'expansion de la rente financière qui caractérise la période qui va de la Grande Dépression de la fin du XIXe siècle à la crise de 1929, l'univers dans lequel va se développer le capitalisme industriel demeure encore bel et bien celui della soumission réelle du travail au capital, marqué notamment par l'essor de la grande entreprise fordiste et la mise en place des principes taylorien d'organisation du travail. J'en viens donc à la deuxième partie, consacrée à la mutation de l'articulation rente, salaire et profit dans la transition entre le capitalisme industriel et le capitalisme cognitif. En fait, comme nous le savons, après la crise de 1929, avec la mise en place du mode de développement fordiste, nous assistons à une marginalisation relative de la rente et à l'hégémonie d'un capitalisme industriel directement impliqué dans la création de la plus-value. Comment expliquer cette marginalisation de la rente à l'âge d'or de la croissance fordiste? Je me bornerai ici à rappeler rapidement trois facteurs dont la remise en cause contribue aussi à expliquer aujourd'hui le retour en force de la rente. Premièrement, toute une série de dispositifs institutionnels relatifs à la réglementation des marchés financiers, à la mise en place d'un impôt progressif sur le revenu, à la régulation de l'offre de monnaie, limitent le pouvoir de la propriété patrimoniale et favorisent un processus inflationniste qui conduit à des taux d'intérêt très faibles ou négatifs. Deuxièmement, dans les grandes firmes fordistes motrices della produzione de masse, le développement des principes tayloriens et fordistes d'organisation du travail conduisent en quelque sorte à son aboutissement la logique de la soumission réelle du travail au capital et de la séparation des tâches de conception et d'exécution. Sur la base de cette division du travail, institutionnalisée selon les codes de la régulation par les compromis fordistes, peut alors s'asseoir, au sens de Galbraith, l'hégémonie d'un capitalisme managériale. Nous entendons par là le pouvoir d'une technostructure qui tire pour l'essentiel sa légitimité de son rôle dans la programmation de l'innovation et dans l'organisation de la production, autour de bureaux méthode et des laboratoires de recherche et développement. Il en résulte aussi une logique gestionnaire qui relègue dans une position de second rang les intérêts des actionnaires et d'autres modalités non productive de valorisation du capital. Enfin, en cohérence avec une logique d'accumulation qui repose sur la centralité du capital fixe, le rôle des droits de propriété intellectuelle, notamment des brevets, se trouve relativement limité. Dans ce cadre, la répartition du revenu semble ainsi se concentrer autour du conflit entre salaire et profit, et plus précisément entre profit d'entreprise et une dynamique salariale qui, bien que de plus en plus socialisée, trouve son impulsion première dans les grandes entreprises fordistes de la production de masse. La place de la rente, elle, semble reléguée dans un rôle secondaire et concentrée.